Donc, je vous laisse la parole. Les poètes, la poésie, place à la main.
Merci à Colette Klein de nous recevoir. Alors je me présente en quelques mots. J'écris depuis toujours, je publie depuis une trentaine d'années environ. Ma poésie a longtemps porté sur le vide, expérience tirée de la méditation, de cours de yoga, ce vide qui devient plein, douce mon lien avec David et Napoli de longue date. Et avec Philippe Tancelin, que je connais depuis une vingtaine d'années, nous nous sommes lancés dans une opération, si je puis dire, où nous avons recueilli la quintessence à la fois de la beauté, de l'énigme de la beauté et de la beauté de l'énigme. Alors, avant de laisser Philippe et David lire quelques passages de notre recueil, j'ai préparé quelques lignes sur la poésie. À l'origine, le divin était invisible pour lui-même. Le grand tout se fascinait en lui. Lorsqu'il sortit de son fascination, son hypnose, probablement en entendit-il l'écho, car l'écho est écoute. Lorsqu'il créa le verbe, l'érigea peut-être, laissa-t-il une marge de silence entre ce qui bruit et le vide environnant pour contour à son mouvement. Un silence fait d'air, et dans sa fabrique s'éprouve le contact. Peut-être le frottement de la terre contre l'atmosphère émet-il un chant. Nous sommes ainsi nés d'un souffle. Lorsque le divin articula la parole primitive, il la commit dans une respiration. Il s'adressa donc à Adam pour lui demander de nommer. Mais en quelle langue, lui répondit le premier homme. Pour traverser cette énigme, la langue se fit poète et les poètes inventèrent le langage. À la recherche de ce souffle premier, nous cherchons à convertir l'expérience en profondeur. Lorsque nous écrivons, le corps danse, geste, il écrit ce qui le met encore. En nous, de profondes sensations fouillent de très ancestrales émotions, là où la peau est profonde. Vos profondeurs célébreront-elles mes profondeurs ? Interroge Marcel Moreau. Descendre en soi pour retrouver le mouvement de ce qui s'était écrit, en libérer les énergies, en accompagnant la propagation lumineuse. Ici, à cet endroit, la poétique regagne son étymologie, l'art de faire si propre au geste du bâtisseur. La poésie consiste à incarner la parole pour la mettre en acte. En nous, la vérité ne s'écrit pas tout à fait, elle se suppute. La laisser monter, sentir à quel moment elle va trembler et la saisir dans son coup d'éclair. Là règne une des intelligences de la matière, sa vibration. Pour illustrer cet aspect de la poésie dans le temps et en acte, j'ai choisi d'effleurer notre ami Philippe Tancelin. Fragile jusqu'au talent de se rompre sur l'imperceptible, l'homme au sourire magicien ouvre sur le jour la scène ressuscitée de nos attentes. On eût dit que montait le sens d'une autre face avancée de l'histoire à sa taille humaine. Il y a l'heure d'une entente au large des mots infranchis, l'heure de rendre le soulèvement à sa source, la langue à son étrangeté, le souffle à son éclair. Enfin, je conclurai en disant que ce rayonnement fossile ou mouvement, ces silences amorcent l'art et énoncent la poésie. Nous la contenons comme un guide. Nous l'éprouvons, la trempons dans le corps du monde. Elle est notre premier instrument poétique. Chant ou trait, le silence commence notre histoire. Par un trait, l'individu nous fait signe. À force de lettres, il s'écrit et inscrit son histoire. Par l'écriture, la préhistoire est aussi entrée dans l'histoire. Nous-mêmes, ou les premiers hommes, avons toujours cherché à laisser une empreinte de notre existence. À travers les premiers graphes sur les parois, nous avons tenté d'apprivoiser nos peurs, nos manques, nos interrogations. Nous avons inscrit ce qui nous échappe pour donner corps aux énigmes qui nous environnaient. À travers le sillon gravé sur la roche, nous avons permis à la fable de retrouver son icône. Par le corps écrivant, la liberté d'expression a commencé sur les murs, comme l'affichait ce célèbre slogan 68. Et d'un coup d'éclair, nous fondons le récit et lui donnerons la forme d'un livre. Cette fonte, cette fondation, cette expansion de soi où le silence s'enracine sont notre peau scriptum. Merci. Voilà, cher ami, vous avez la parole.
Moi, je n'ai pas grand-chose. Bonjour d'ailleurs à toutes et à tous. Vous m'excuserez de me mettre non pas en dehors de l'air de prononcer de Anne, mais simplement j'ai échappé pendant 40 ans de ma vie d'universitaire à la table. Et donc voilà, je continue d'échapper à la table, et c'est pas maintenant que je suis en liberté que je vais me mettre à la table. Non, j'ai pas grand chose à dire, sinon que je suis très sensible à ce que Anne vient de prononcer. Et je la remercie infiniment pour la citation dont je me suis demandé qu'elle faisait de moi, dont je me suis demandé mais qui a écrit cela, et ce n'est qu'au bout de la troisième phrase que j'ai réalisé, et voilà. Donc ça me... Pourquoi je dis cela ? Parce que c'est le sentiment que j'éprouve lorsque j'entre dans... lorsque j'entre en poésie, mais ça ne veut pas dire... On peut rentrer en poésie, on rentre dans les ordres aussi, alors bon, c'est très très ambigu. En tout cas, lorsque je m'engage dans un processus qui pourrait être le processus qui a pour finalité d'aller à la rencontre, d'aller vers l'autre, d'aller à la rencontre des autres. Voilà. Pourquoi je dis j'ai pas grand chose à dire ? Parce que cinquante ans de vie solitaire avec l'écriture m'a convaincu d'une chose. C'est qu'il n'y a pas d'autre dire que le dire ensemble. Il n'y a pas d'autre que le faire ensemble. Il n'y a pas d'autre écrire que l'écrire ensemble. Alors on écrit l'histoire, on dit l'histoire, on raconte les histoires ensemble. Voilà, et que moi je ne crois entendre la poésie, enfin en tout cas ce que moi je suis... engagé à essayer d'entreprendre, je ne crois l'entendre que ensemble. D'où la quasi-majorité de mes poèmes sont en relation directe avec l'histoire, avec le monde, avec les événements. Voilà. Ce n'est pas pour autant ce qu'on a pu appeler de façon extrêmement regrettable, à mon avis, une poésie de commande. Mais je dirais, c'est plutôt une poésie de demande. Voilà. Donc, je demande, à travers l'écriture, à ce que les demandes se formulent pour un être ensemble. Voilà ce que je peux dire. Merci.
pourrait peut-être collir quelques extraits.
Donc c'est le... Bon, peut-être quand même que tu dises...
J'ai confié ce rôle-là à David.
Non, mais que tu dises le... Le scénario, tu racontes le scénario. Comment c'est venu, ça?
Je te laisse raconter.
C'est très simple, c'était... Nous sommes croisés dans un café, pas loin du Palais de la Mutualité. Et puis nous avons devisé, comme n'importe qui, comme tout le monde et n'importe qui peut deviser lorsqu'il rencontre l'autre. Et voilà, je ne sais plus lequel des deux a exprimé l'intérêt que pourrait représenter d'écrire à deux. Voilà. Bon, c'est pas une première expérience. Moi, j'ai passé 37 ans de ma vie à écrire à deux. En particulier, pas la totalité de ce que j'ai écrit, mais une grande partie. C'était avec un grand poète, une grande poète et philosophe qui s'appelait Geneviève Clancy. Et voilà, donc j'ai dit pourquoi pas. Et on s'est dit, mais alors on écrit sur quoi? On écrit à propos de quoi? Voilà, on a cherché un peu. Puis je ne sais plus, le terme beauté est venu, je ne sais plus comment il est venu.
Et il a monté en nous.
Il a pris l'ascenseur de l'asphalte, depuis l'asphalte, et il est monté en nous jusqu'à nos yeux pour que nous essayions de déchiffrer, non pas la beauté, mais en quoi la beauté est une énigme, et en quoi l'énigme peut participer de la beauté, et doit même participer de la beauté. Voilà, donc il y aurait tout à discourir là, philosophiquement sur le concept d'énigme et du rapport de l'énigme à la beauté. Mais je pense très simplement que voilà, la beauté commence lorsque on la recherche. C'est tout.
Et que l'énigme l'escorte.
Oui.
La courtise.
Oui, peut-être. Oui. Mais on la cherche. Bon, et comme tout chercheur, on ne trouve pas. On trouve toujours ce qui est à côté de ce qu'on cherchait. Donc la beauté serait à côté de la recherche que l'on fait d'elle. Mais l'important, c'est la recherche que l'on fait d'elle. Et c'est là qu'on devient beau. Hein? Regardez comme les femmes et les hommes qui recherchent la liberté deviennent beaux. Elles deviennent belles. Hein? C'est Jean Genet qui disait à propos d'un... Au moment de la guerre d'Algérie, Jean Genet dit même les macros qui déambulaient sur les boulevards de Belleville pour ramasser le travail des jeunes filles ou des jeunes femmes qui mettaient sur le trottoir, lorsque la guerre d'Algérie s'est engagée, même les macros sont devenus beaux parce que c'était tout d'un coup une marche vers la liberté, bien que cette marche fût entachée, effectivement, par la tâche méprisable du macro. Mais ils sont devenus beaux. Et regardez aujourd'hui comme on a quand même une admiration pour les femmes et les hommes qui sont en révolte, pour la liberté, pour leur autonomie. Voilà. Donc je finirai ma déclaration en disant que c'est pour ça que je suis tombé amoureux des Gilets jaunes le 17 novembre 2018. Je suis rigoureusement...
Mais vous avez procédé comment, pour savoir?
Alors, c'est tout simple, par stimuli, c'est-à-dire qu'il y en a une, je ne sais plus lequel, à laquelle, lequel ou laquelle a envoyé, voilà,
un premier
lapsus du vide, je ne sais pas. voilà, et
On est parti en fait sur le principe de la résonance. Il ne s'agissait pas de répondre, il s'agissait de se mettre en résonance au sens de la théorie quantique. Voilà. La mise en résonance, c'est sans doute la plus belle, c'est celle qui rend compte de l'inséparabilité des hommes à travers, enfin des hommes, des humains à travers la planète. Voilà.
Juste avant que vous commenciez, pardon, mais un poème était écrit par Anne, par exemple, et vous le retravaillez, ou il y a un poème d'Anne, un poème de vous, comment ça se... Ouais,
envoyé par mail.
Comment?
Elle envoyé par mail, mettons, c'est elle qui a commencé, mettons. Hein, elle envoie 5 lignes par mail, 3 lignes par mail. Voilà, d'ailleurs, c'est 3 ouais. lignes, 5 lignes, 6 ouais. lignes, 6 ouais. lignes par mail. Je reçois, et moi, je pars tout de suite de ce qui résonne en moi, de ce qu'elle a écrit. Voilà, ça c'est la première étape. Et après, donc, je laisse reposer, une heure, deux heures, une demi-journée, je ne sais pas. Et puis je lui renvoie, mais après avoir retravaillé, mais ça on pourra en discuter après, qu'est-ce que j'entends moi personnellement par retravail. Hein, c'est pas, voilà, pour moi c'est quelque chose de très très précis, de très rigoureux. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'aléatoire dans le corpus qui apparaît, mais c'est un aléatoire qui a été taraudé, voilà, travaillé. Quel est cet étrange immobile? Et survient précisément au geste d'aller. Quel est ce vis-à-vis du monde avec ses fiançailles? Et voit soudain la branche suivre son oiseau. Quelle est cette présence extrême? Et c'est du silence là, l'audace invulnérable. Quand à l'instant de ténèbres retentit la place de toute son altitude.
C'est vrai par l'éclat. Le monde contient son ampleur. Nous bouterons sur nous-mêmes, aux ors non dites qui nous extraient.
L'heure n'est jamais venue. Le temps ne confie pas son être à une image. Apprenons de l'éternité son règne d'exigence amoureuse.
La maturité s'acquiert aux semences toniques du matin, quand se déposent les reliques de la lumière. Inadvertance circonscrite à nos plus belles inconnues. Cette épreuve nous livre intime et signe les pulsations du mystère.
Nous plantons sur le sentier violent des vents les certitudes contrariées qui obligent l'orage à trop de contournements de ses voies d'éclair. Ce qui se révèle dans la dévastation, c'est l'étendue de son évidence à ciel rabattu.
Nous écoutons la musique sacrée de la multitude et embellissons les rivages. Nous répandons la beauté de l'énigme qui nous saisit et nous advient. Nos regards enseignent les miroirs, interrogent leurs nuances et leur nudité pour sacrer ce qui nous reste à vivre. La maturité nous répondra.
Entre nuit et jour, cet éclair qui marque le pas, notre part de miroir de l'inconnu, la plus universelle, la moins réfléchissante. L'énigme de beauté tient festin au lieu échappé de toute attente. Elle dit, par l'orage des formes, la procession solaire qui l'infuse.
Un ange épelle l'étymologie du ciel. Il nous instruit de ce chant libérateur. Là est l'héritage de nos somptueux désirs.
Je ne sais quand prendra fin la revanche du mystère sur la lucidité. L'énigme est visionnaire du corps intérieur des mots.
Osez l'instinct. Les lignes de force. Formulez l'inattendu lorsque le regard se défait.
Je t'aperçois en secret parmi la multitude. Dans cette convergence inexplorée des attendus. Le pas posé sur le temps divisé, la parole riveraine de l'étoile, la main inventée par les sources, le visage devancier.
Nous convoitons les belles aérées, nous buvons l'air sur un buvard magique. L'empreinte nous pleure au bas des clartés. En sortirons-nous vivants. Comment extraire du temps la sculpture de l'union, traversée de sidération fugitive.
Il est une intensité obscure, invasive de la souffrance, qui éblouit le consentement au moindre mal, fait de nous un fauve d'amour.
Laissons-nous apaiser par les sémences réfléchies du ciel. Le silence se résout à l'imaginaire. Nous guetterons nos rêves par transparence.
Un poème pour qu'il pleuve sur ta soif érudite.
La vision pour savoir, l'étrange pour occulter, les ombres projetées, convaincues d'énigmes. Estimons l'énigme qui nous signe, tel est le prix du vertige.
Nous sommes vivants du combat des étoiles dans l'univers inanimé des têtes couronnées. Nous avons le cœur à l'herbe sauvage et l'extase en tête de ces courses au vent.
Nous raisonnons de l'essentiel. Tel ce voyageur montant des brouillards vers son motif de marche.
Nous avons besoin de clarté pour conduire le souffle des mots aimants, ce qui a trait à leur profondeur, tient en cette énigme qui les fait mutuellement pourvoyeurs du sens. Un sens ultime des choses.
Un hasard s'aère sur le buvard de l'intuition. L'œuvre s'est absentée pour cause de formation. Comment arriver à destination ?
Nous raisonnons de l'essentiel, tel ce voyageur montant des brouillards vers son motif de marche. Comment arriver à destination ? Comment arriver à destination ?
Je me suis peut-être pas bien rendu compte. Ça laisse le temps. Ça laisse le temps aux questions.
Je pensais que la lecture serait plus longue, tellement belle que. Voilà, je pense. Alors, tu as plus.
C'est plus long, ça doit être plus long.
Vous ne voulez pas aller en d'autres? Mais il y a peut-être des questions.
Les meilleures choses sont courtes.
On a déjà envie de voir
les 6 morts.
Excuse me.
Donc, dans l'objet final, on ne sait pas qui a écrit quoi.
En fait,
sur l'objet final, qu'est le livre, donc les mots de Anne sont en italique, et ceux de votre serviteur sont, voilà, ne sont pas en italique.
Donc c'est différencié.
Voilà. Là, ce qu'il y a, si je puis me permettre, petite remarque, ce qu'il y a d'intéressant dans l'expérience que nous avons de ces lectures publiques, c'est qu'en fait, il y a autant d'entrées que de fragments. C'est-à-dire, dans quelque sens que vous opériez le montage de ces fragments, il se raconte autre chose. Enfin, je ne sais pas s'il se raconte autre chose, mais il est suggéré autre chose. Voilà. Compte tenu du fait que, je ne sais pas si Anne sera d'accord, mais que, en fait, nous n'avons rien à dire, ni sur la beauté, ni sur l'énigme. Nous n'avons rien à dire, et nous avons simplement peut-être à inspirer à chacune et à chacun qui entend ces fragments, inspirer une énigme et inspirer une quête de beauté.
Et alors, si je peux demander le sens précis de retravailler le texte pour vous, parce que vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure en vous proposant d'y revenir.
Alors, évidemment, je ne vais pas parler au nom d'Anne, parce qu'elle est assez grande pour parler
d'elle-même. Mais elle peut aussi réagir par rapport à cette problématique.
Mais surtout, non, mais je peux parler en mon nom, là, propre. Alors, c'était à vous qui posiez la question tout à fait au début, là, quand j'ai dit oui, il y a un retravail, enfin, il y a un taraudage. Voilà, il y a un taraudage du fragment qui surgissait depuis la résonance ressentie avec le fragment initial proposé par Anne. Alors, ce taraudage, il consiste en quoi ? Pour moi, vraiment, très subjectivement, il consiste en l'élimination, la décapitation, mais vraiment radicale, de tout ce qui peut constituer un cliché, non seulement un cliché, mais de tout ce qui peut constituer même la naissance d'une image. Voilà. Alors, si vous me posez la question, pourquoi cette obstination et cette radicalité par rapport à l'absence d'image, je peux vous le dire. Mais si vous me demandez...
Alors, comment
vous
le donnez ?
Comment ?
Dis-le, oui, on voudrait ça.
Mais alors là, mais ça va m'entraîner dans une démarche un petit peu, pas longue, mais je vais essayer d'être bref et concis. Mais ça part d'une démarche critique, politique, par rapport au monde dans lequel nous sommes embarqués. Embarqués au sens de vraiment foutus dans une barque qu'on n'a pas choisie et qu'on nous impose d'emblée à travers la culture. Mais c'est pas la culture seulement en tant que culture que je critique là. Mais c'est l'imposition, les diktats par lesquels on capture en fait ce qu'il y a de profondément culturel en l'humanité, quelles que soient les civilisations. Donc, ce départ critique, il est que, embarqués dans ce monde, nous sommes tenus en laisse. Alors, tenus en laisse, pas comme des esclaves des temps anciens, c'est sûr, pas comme du temps de Spartacus, mais tenus en laisse d'une manière qui est aussi servile, aussi esclavagisante que pouvaient l'être les temps de Spartacus. C'est la tenue en laisse par l'affirmation, par trop deux choses en fait. L'affirmation péremptoire, la solution inévitable. Un problème, pas de problème, on a une solution. On va vous résoudre tout ça. Vous avez un problème, si vous avez un problème, madame, vous inquiétez pas, on va s'en occuper. D'ailleurs, on va pour cela vous assurer. Et pour cela, on va vous mettre en sécurité. Et pour cela, au nom de la sécurité, on va vous surveiller. Et puis, une fois qu'on vous aura surveillé, on va vous contrôler. Voilà. Ça, c'est la déclinaison, si je puis dire, le parcours. Hein, le parcours social que nous connaissons bien dans nos sociétés dites démocratiques néolibérales. Donc, pas de pensée solutionnante. Ça, c'est la tenue en laisse. L'autre tenue en laisse, c'est évidemment, alors, ce sont évidemment, je ne sais plus, j'ai oublié le terme au début, j'ai déjà oublié. Bon, peu importe. C'est la question de l'image. C'est-à-dire que nous sommes assaillis par une brousse d'images. Des images qui sont parfaitement construites. Alors, on ne parle pas des images subliminales, parce qu'on a dépassé maintenant. Les sciences cognitives savent parfaitement, aujourd'hui, faire l'analyse de ce qui se passe au niveau de nos neurones et de nos connexions neuronales par rapport justement à l'invasion, à cette fabrication, cette prolifération de brousses d'images. Et ce sont des images qui ont en fait quoi ? Qui ont pour finalité de vous dire que c'est comme cela et ce n'est pas autrement. Hein ? C'est l'image dictate qui dit ça c'est la réalité. Moi je dis c'est quoi la réalité ? Je ne connais pas la réalité. Je connais le réel. Enfin, je connais le réel. Je sais qu'il y a du réel, que ce réel, il va peut-être pouvoir s'actualiser à travers une multitude infinie, une infinité de formes que vous appellerez réalité. C'est vrai. Enfin, c'est vrai, c'est une vérité, mais c'est une vérité qui est parcellaire, fragmentaire et en plus éphémère. Voilà. Et qu'au nom de cette vérité fragmentaire, parcellaire et éphémère qui est affirmée dans un discours péremptoire, on vous dit c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Donc, et je pense, et là c'est, je reviens directement à la poésie, c'est que je pense, et là depuis entre guillemets, on pourrait dire, commencer avec Rimbaud, enfin, Rimbaud avait dit quand même que la poésie n'était pas, et c'est pas ce qui rythmait l'action, c'est pas ce qui constituait une embellie, justement. Donc, ma chasse aux images, c'est ça. C'est la chasse aux images. Et aux images à l'intérieur même de la poésie. Celui auquel je puis me référer, qui pour moi est le plus grand artisan de ce taraudage et de cette mise en accusation, au sens réel du terme, de mise en accusation de l'image, c'est René Char. C'est-à-dire cette pensée aphoristique. C'est-à-dire, mais René Char est très clair là-dessus, dans je ne me souviens plus de quel fragment, c'est pas Feuillet d'hypnose, dans quel recueil, c'est au-dessus de la clarté, au-dessus de la clarté. Il dit très clairement que nous marchons auprès de margelles, voilà, nous marchons auprès de puits dont on a supprimé les margelles. Nous marchons auprès du puits dont on a supprimé les margelles. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne vais pas faire une explication de texte de cette phrase, mais ce qu'il y a comme préoccupation principale chez René Char, c'est effectivement tordre le cou aux images. Parce que les images sont des muselières dans la patience du chien servile. Ce sont des laisses au cou de l'humanité. Voilà. Alors, vous me direz, mais on ne peut pas, est-ce qu'on pense sans images ? Bien sûr qu'on fait les images, on crée les images mentales. Le problème, nous avons des images mentales. Tout à l'heure, la question des images mentales. Le problème, c'est que l'image mentale, elle est nourrie, elle se nourrit de quoi ? Elle se nourrit de ce qui va la stimuler. Et ce n'est pas une image qui va la stimuler, c'est l'absence d'image qui la stimule. Et là, on peut rejoindre tout à fait les sciences cognitives qui sont très claires là-dessus. À chaque fois, et on en revient à notre thématique de l'énigme, à chaque fois qu'il y a ambiguïté, à chaque fois qu'il y a énigme dans une formulation, l'imaginaire s'ouvre. Il y a possibilité pour celle et celui qui lit ou pour celle et celui qui regarde, il y a la possibilité de pouvoir de s'ouvrir. Moi, je dirais de s'ouvrir. Je reprendrai Rilke, c'est le fameux ouvert dont parle Rainer Maria Rilke. C'est l'ouvert des choses. C'est cette aller dans l'ouvert. C'est-à-dire qui n'est pas arrêté et qui n'est pas par une projection qu'il fait d'une image, soit une image qu'on lui a imposée, soit une image qu'on lui a suggérée comme l'image qui pouvait correspondre à son attente. Voilà.
Mais ça, alors, c'est très personnel, parce que là où vous n'avez pas d'intention d'image, chez quelqu'un d'autre, il peut y avoir immédiatement un déclenchement d'image.
Ah, absolument. Mais absolument. Absolument. Mais
non, dans votre volonté, je comprends tout à fait. Mais après...
Non, mais moi, je ne prétends à aucun contrôle et aucune surveillance de l'image qui va être générée par celui qui reçoit. Ce que je veux, c'est suggérer. Je reprendrai la phrase d'Éloi, le poète est beaucoup plus inspirateur qu'il n'est inspiré. Claire. Moi, j'estime que je ne suis pas inspiré. Si je me mets à écrire sous inspiration, mais je vais écrire quoi ? En 50 ans, si j'arrive à trois pages, ce sera le maximum. C'est très rare l'inspiration. C'est très très rare. Alors, mais inspirer, c'est-à-dire chercher à susciter, alors pas là justement, par des points de vue, mais des postures très claires vis-à-vis de ce que l'on emploie. Si on emploie des mots, moi j'estime qu'il faut qu'on ait une posture très claire. Et aujourd'hui en particulier. C'est extrêmement important. On traverse une époque, et en particulier, je dirais, dans nos démocraties, mais pas seulement nos démocraties, mais elles en sont victimes directement. On est victime, par le discours dominant, d'une véritable capture du langage. C'est comme les mots pour quels que vous avez investi à travers votre expérience de vécu sensible, ces mots, non pas qu'ils vous appartiennent, mais vous les avez fait vôtres. Vous les avez en poche. Et à chaque fois que vous rencontrez l'autre, vous lui donnez ces mots pour, entre guillemets, non pas communiquer avec lui, mais raisonner avec lui. Tout d'un coup, vous sortez vos mots. Ah. Il y a un salopard qui s'est infiltré dans votre poche et qui a changé, qui a capturé le mot que vous aviez investi pendant des années. Et qui en a fait n'importe quoi, qui en a fait autre chose. Autre chose. Ça peut s'appeler la liberté, ça peut s'appeler l'égalité, ça peut s'appeler la fraternité, ça peut s'appeler tous les mots du vocabulaire. Aujourd'hui, c'est effrayant ce qui se passe.
Vous êtes plus fort que lui.
Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a la bataille aujourd'hui qui est importante, en dehors bien sûr des batailles sociales et politiques, mais c'est la bataille du langage, mais ça passe par là. La bataille du langage, elle est indispensable aujourd'hui. Et là, les poètes et poétesses, peuvent y contribuer. Moi, je ne dis pas qu'ils sont les maîtres de ça, pas du tout. Ce sont de simples artisans, ils ont un petit peu plus de... Ils sont consacrés un peu plus de temps que d'autres parce qu'ils avaient les disponibilités ou autres. Et donc, ils peuvent y contribuer, peuvent y aider peut-être un peu, mais en tout cas, il me paraît indispensable aujourd'hui de leur part de s'investir dans cette bataille-là. Et s'ils ne s'investissent pas, le paradis ne leur appartiendra pas.
Grosso modo, vous passez les mots au papier de verre avant de les réutiliser.
Ouais, ouais. Ah ouais.
Et toi, Anne, par rapport à ce qui vient d'être dit, est-ce que plus tard, tu retravailles tes...
Alors, moi, j'ai une petite différence avec notre ami Philippe. Je travaille sous inspiration. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas de cadre et que c'est informe. Mais au moment d'écrire, je rentre dans un état que je qualifierais entre guillemets de mystique, de, d'appeler à quelque chose que je sers, et je ne retravaille pas mes textes. C'est-à-dire que ce que vous avez dans ce recueil, c'est le résultat de ce cheminement. Mais il faut dire que, à titre professionnel, j'écris des livres de commande, je suis prête-plume, j'écris pour autrui. Et comme quelque part les gens avec qui je travaille me demandent mes possibilités de plume, mon style, il n'y a pas de grande différence entre mes livres de commande et mes recueils. Donc j'écris toute la semaine avec un sentiment de grâce, aussi bien pour les gens dont je sers la sensibilité que pour mes propres œuvres à moi. Voilà, donc moi je suis pas tout à fait non plus d'accord avec la notion d'image. Lorsque j'échange avec quelqu'un, il y a un échange d'images. On se représente quelque chose que l'on saisit de manière plus ou moins floue, plus ou moins exacte. Et il y a un échange d'images. Et je pense que cette modulation du cerveau qui passe par l'image est une manière de symboliser ce que nous appréhendons, ce que nous comprenons et ce que nous vivons. Voilà.
Oui, ce que m'inspirait ce que disait tout à l'heure Philippe, par rapport au salopard qui avait changé les mots dans sa poche, c'est que ce que faisait le salopard dans sa poche, c'est qu'il enlevait le sens et le symbole du mot. Et il lui accorde autre chose, d'ailleurs un peu terre à terre et souvent d'ailleurs indéfini. On pourrait dire que ce langage est manipulatoire, que ce langage est une tromperie en fait, et que l'image elle-même n'a pas cette problématique. L'image elle peut être chargée de symboles, de sentiments, de choses sensorielles aussi, et donc de plaisir. Ce qui me vient aussi en comparant vos deux écritures, mais aussi par rapport à l'écriture, par exemple, de Philippe, qui va vers la philosophie, ou vers le sens, en tout cas, d'autres écritures qui sont chargées de métaphores, c'est peut-être aussi lié à l'imprégnation de la culture française, qui nous amène quand même, on est quand même beaucoup axé sur la raison et sur la réflexion, hein, sur l'analyse, et même si avec la poésie on s'en échappe forcément, parce que sinon ça ne serait pas de la poésie, quand même cette volonté de René Char, de Philippe, je pensais aussi à Roberto Juanos, l'écrivain, le poète argentin, d'aller vers le sens et de décaper, enfin d'aller vers l'essence d'une idée ou d'une représentation,
la quintessence, hein,
et qui est tellement lointaine de, par exemple, de la poésie orientale, qui est chargée d'images, chargée de métaphores. Et donc on voit là que la culture joue énormément dans ce travail que toi tu appelles le taraudage. Et que finalement, oui, la culture joue aussi, quoi. Même si on a au sein de la France, on a des sensibilités différentes, et puis que finalement, Anne et Philippe font différemment.
Je vais peut-être dire une bêtise, mais j'y vais quand même. Il me semble qu'il n'y a pas une si grande différence, parce que je n'ai pas entendu qu'il cherchait le sens, mais plutôt l'essence, ce qui est différent. Et dans l'image, dans la métaphore, hein, qui déplace, il y a aussi ce mouvement-là, c'est-à-dire cette énigme-là. Parce que dans le sens, bon, je vais dans un sens, je donne une signification, la direction, etc. Donc en fait, je n'ai pas tellement l'impression qu'il y a une très grande différence. On entre dans le même, c'est pour ça que je pense que vous avez pu dialoguer, on entre peut-être par des chemins différents, mais on louvoie, on vague dans la même zone.
Tout à fait.
Oui, moi, je voudrais. Parce que dans le mot image, dans le mot image, imaginons, justement, parce que dans le mot image, on est quand même, je dirais toujours, dans une sorte de prison, parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse imaginer, quelque part, il y a toujours une image. Le mot image, si on coupe et on, quelque part, on laisse transparaître une partie de ce mot qui est simplement mage, hein? Mage dans le sens de la magie. Et ce, à mon sens, est la plus grande possible. Et en même temps, Anne, oui, il y a un sens qu'il faut se perdre. Il faut le perdre justement dans la magie. Il faut le perdre dans la recherche d'un sens pour trouver dans la magie un autre sens, un sens qui bascule autrement et qui échappe à une logique même plurilogique de l'image qui s'installe. C'est l'image qui s'installe qui fait et qui rend les autres quelque part esclaves de cette image qui s'installe. Mais cette image qui s'installe répond toujours à une dynamique de sens. Dans la magie, il y a cette dynamique de sens qui peut être mise en danger, justement. C'est mettre en danger l'image par la magie même de l'image. Parce que quand on dit image, même une phrase, c'est-à-dire même un échange, est riche d'images. Il ne s'agit pas de la coincer, de la bloquer, de la... Il s'agit simplement de la, justement, décaler, échapper.
Et d'ailleurs...
Et même s'y échapper.
J'ai réalisé il y a quelque temps, en écrivant un roman sur quelqu'un qui est à la fois un homme de théâtre et un franc-maçon accompli, que la magie, j'ai longtemps pensé que c'était le mage agit. En fait, la magie, c'est l'âme agit. Et quand j'ai réalisé ça, les choses sont devenues plus fluides. Oui.
Non,
mais vous pourriez
peut-être reprendre une lecture.
C'est de toi, Anne, fait de nous un fauve d'amour.
Non.
C'est un
grand divin. Enfin, ça dévore un fauve, heureusement.
Je suis
sûr
qu'il y a quand même des images.
Oui, bien sûr.
Non, mais j'ai pas dit qu'il y avait.
C'est Robichard qui disait.
J'ai pas dit qu'il y a absence d'image.
Non, on marchait sur une image.
Pas dit qu'il y avait.
C'est une image aussi.
C'est
ça. Non, c'est pas une image.
Comment?
Marcher sur un puits sans margelle, moi j'appelle ça une image, mais bon, je me trompe peut-être.
Marcher auprès du puits dont on a soustrait les margelles.
Dont on a soustrait les margelles.
Il y a des éléments d'image. Si vous parvenez à arrêter ce qui est signifié, ce qui se signifie à une image, parfait. Moi, je suis incapable. Parce que c'est ça la question. C'est comme Artaud quand Artaud disait. Il faut cesser d'arrêter le monde à la représentation que nous nous en faisons. Voilà. Donc c'est-à-dire que toute image est une potentialité d'arrestation à une représentation. Voilà. Donc la question, c'est pas de supprimer les images, c'est d'offrir éventuellement des images plurielles, des images multiples, des images à plusieurs sens.
De cliché au sens littéral du terme.
Oui, clic. Voilà. L'arrêt sur l'instant. L'arrêt instantané. Ouais. Mais c'est pas l'absence d'image.
Non, sinon on fait de la philo.
Oui, encore. Il y a plein d'images en philo. Hein. Il y a plein d'images. Hein. Les allégories, si vous n'avez pas les images.
Des symboles.
Ouais. Pourtant, le photographe. Oui. Il prend un cliché. Oui. Mais les grands photographes, leurs clichés sont pleins de sens.
Ben oui.
Sens il y a multiple. Beaucoup de choses derrière. Ben, bien sûr. Il y a beaucoup de choses derrière.
Vous pouvez entrer par.
Cliché,
parfois. Bien sûr.
Il y a un cliché à plusieurs sens.
Voilà,
bien sûr.
Au sens
voilà.
Propre.
Bon, en poésie, quand on parle de clichés, c'est des images usées. Donc c'est
oui.
C'est pas.
Oui.
Ben, c'est toute la thématique que l'on donne également au niveau culturel, sociétal, dans le salon du livre, etc. Il y a des images, il y a des clichés, puisque il y a des thèmes, il y a toute la thématique. Alors déjà, le cerveau, il a pas sa liberté. C'est très dur, c'est une question de... Après, zombie ou ça... réactionnel, ça peut être... Enfin, tout ça, c'est...
Est-ce que vous pourriez brièvement évoquer quand même... Pardon, excuse-moi, Rebecca.
Oui, je vas-y.
Évoquer quand même votre carrière poétique, je dirais, entre guillemets, antérieure à votre livre commun.
Alors, pour ma part, c'est ce que j'ai effleuré tout à l'heure. J'ai eu un petit peu deux périodes dans ma poésie, ma poétique. J'écris à peu près depuis l'âge de 25 ans, enfin je publie depuis l'âge de 25 ans. Très longtemps, ma poésie a donc été habitée par ce phénomène du vide et du plein dont je parlais tout à l'heure, quand on trouve en soi-même, au cœur du calme, une densité. Et ensuite, je suis passé du yoga à un chemin plus symbolique. Et là, ma poésie est devenue plus symboliste. Et aujourd'hui, je réunis un petit peu les deux champs dans ma manière d'écrire, ce qui me permet aussi de collaborer à des livres d'art, notamment avec David et Napoli il y a quelques années, autour du vide et autour de la symbolique, de symbolique abstraite également et conceptuelle. Voilà, donc j'écris, je continue toujours des projets de poésie dans une écriture peut-être plus représentable qu'elle ne l'était il y a une dizaine d'années. Philippe.
Oui.
Voilà.
Philippe,
je veux parler de
votre œuvre poétique.
La question c'est.
C'était savoir un petit peu d'évoquer brièvement votre œuvre poétique antérieure à ce livre commun. Bon, non mais c'est pas une obligation. C'était une suggestion, mais.
Quand t'as commencé à écrire? Allez, raconte-nous, combien de livres tu as
commencé? À quel âge?
Vas-y, Philippe. Relâche-toi.
Je peux peut-être dire quand même quelque chose. Ouais. Et qui me frappe aujourd'hui très très fort, c'est la peur qui existe chez les parents vis-à-vis de leurs enfants, chaque fois qu'ils ont l'impression que leur enfant s'ennuie. Je trouve ça dramatique, on ne cultive pas l'ennui chez l'enfant. Mais pourquoi? Parce que moi, c'est comme ça que je me suis mis à écrire. J'étais à l'école communale, j'avais 5 ans, quand je suis rentré à l'école communale, et je m'ennuyais profondément. Non pas parce que j'étais génial et que j'étais en avance, mais c'est vrai que je savais lire, écrire, compter, multiplication, addition, division, à 5 ans, quand je suis rentré à l'école. Mais je m'ennuyais. Et donc, comme je m'ennuyais, je chopais des mots que j'entendais du maître ou de la maîtresse, plus souvent du maître avec qui je n'étais pas en très bon rapport. Voilà. Et puis je notais sur mon papier, sur mon cahier, la dernière page en général, pour pas qu'il voit. Je notais les mots que j'avais chopés comme ça. Et je m'amusais, en fait, je me suis amusé avec les mots, chercher à les mettre dans tous les sens, jusqu'à ce que j'y tiens, ah là, ça veut dire quelque chose pour moi, là. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, cette inscription dans, non pas la recherche d'un sens qui serait donné, mais la recherche d'un sens à produire, voilà, qui m'a incliné à faire des études de philosophie. Et là, j'ai rencontré la philosophie. Et puis, avec la philosophie, j'ai buté sur un obstacle qui était le concept. Voilà. Et à un moment, j'ai dit, il n'y a pas de problème, y a le concept, il obstrue. Il bloque, là. Il me bloque et il n'y a pas de problème. Je comprends pourquoi il faut s'envoler, il faut décoller depuis la philosophie vers la poésie. Mais en maintenant toujours, évidemment, pour moi, quelque chose qui est parfaitement inséparable, c'est la philosophie et la poésie. Bon, ce sont les amants terribles. Je ne sais pas, vous connaissez peut-être le film Les Amants Terribles. Bon, voilà. Et bien, c'est ça. Ce sont des amants terribles. Ils n'arrêtent pas de se fuir, de se retrouver. Puis dans toute l'histoire de l'humanité, dans quelles que soient les cultures, que ce soit à travers les mythes qui sont universels, je veux dire, la pensée, l'interrogation philosophique, hein, c'est-à-dire l'interrogation sur qu'est-ce que ça pourrait dire, pas qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça pourrait dire, comme les enfants d'ailleurs. Et là, le poète et l'enfant, ils se rejoignent complètement. Un gosse, vous le prenez à 3 ans, 4 ans, quand il commence à parler, il commence à regarder le monde et il s'étonne, et la question, là, il est philosophe, il pose la question, qu'est-ce que c'est ? Et il met en même temps en doute, il est toujours philosophe, il met en même temps en doute, c'est vraiment ça ? Et est-ce que ça pourrait pas être autre chose ? Et là, il devient poète. Donc il est, le gosse, il est... Pour ça que c'est dommage qu'on ne commence pas la philosophie très tôt, très 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 tôt, pratiquement à l'école communale. Et la poésie, qu'on maintienne, qu'on nourrisse, qu'on entretienne cette ouverture que l'enfant possède, cet ouvert que l'enfant possède. Voilà. Donc, voilà. Oui, c'est tout.
Merci.
Je peux dire quelque chose ? On pourrait... dire la même chose avec la psychologie. C'est souvent quelqu'un qui fait quelque chose qui navigue, qui côtoie la poésie. Ben, le problème avec la psychologie, c'est qu'il y a aussi des grilles, des concepts, sûr, etc. Voilà, et qu'il faut aller au-delà de ça, sinon... on en arrive à une psychologie analytique, enfin une poésie analytique.
Sauf que ça peut rester toujours théorique. Il y a certaines poésies, elles n'est pas du tout dans notre propos. Hein. Oui,
bien sûr.
C'est-à-dire que les métaphores, dans certaines époques, dans certains pays où il y avait la dictature, par exemple, parce que là, on vit, nous sommes, d'une manière ou d'une autre, dans une démocratie, du coup, libre d'expression. Mais dans certains pays, où il y a une surveillance sur le mot, et du coup, les poètes, c'est là où son travail, c'est d'éviter justement cette surveillance policière. Et j'ai l'impression que parfois, ici, aujourd'hui même, moi j'ai vu depuis 40 ans, justement, c'est que on est surveillé quelque part. Hein,
et merci ça, de rappeler ça.
Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre. Et théoriquement, oui, on est tranquille. Mais il y a des poètes, on les fusille, quoi. Et qui sont très très forts aujourd'hui. Ils lévitent. Partout aujourd'hui, ça pète. En Chili, en Irak, en Palestine, au Liban, partout. Hein. Et du coup, bah, en France, pareil. Hein, en Espagne, je veux dire, c'est le monde vraiment. Et les poètes, c'est quoi leur rôle, justement ? Ils descendent dans la rue avec une théorie, ou est-ce que, justement, il y a une mémoire publique chez les poètes, dans les poètes, la poésie que j'aime ? Il y a la mémoire publique pour moi. Je n'ai pas ni image ni métaphore. Hein. Je l'appelle mémoire publique. Et du coup, c'est ça qui va vers l'autre, ce qu'on communique avec l'autre. C'est notre mémoire commune, quoi. C'est comme quand je disais la Mésopotamie, c'est notre culture commune, c'est l'humanité. C'est pas qu'aux Irakiens ou je sais pas qui naît là-bas, on s'en fiche. C'est commun. Et je pense que c'est ça, le questionnement que depuis tout à l'heure j'écoute, c'est vraiment très très intéressant. Mais c'est vrai que je rappelle juste qu'il y a des poètes qui sont pas du tout dans ce genre de propos.
C'est un rappel essentiel que tu fais là, ça là, c'est essentiel. Ça me permet de rectifier, on ne devrait pas dire la poésie, poésies. C'est évident que ce sont les poésies. Il y a toute poésie, comme tout discours, il est déterminé par les conditions historiques dans lesquelles on est. Il est évident qu'aujourd'hui, pas la représentation, mais la suggestion de la liberté qu'un homme dans l'Occident, entre guillemets, prétendument démocratique peut faire, n'a rien à voir avec la suggestion de la liberté qu'un Chilien, qu'un Irakien ou qu'un Palestinien à Gaza peut faire, évidemment. Et là, c'est vrai où il se retrouve. C'est que si demain, je suis, moi, dans la position, enfin dans la position, dans les conditions historiques, qui sont celles de certains d'entre nous, puisqu'on peut parler d'une communauté en devenir des poètes, si demain, moi, je suis dans ces conditions, je vais évidemment, c'est sûr, je vais sans doute
retrouver non pas l'image, mais j'ai retrouvé cette dimension universelle qui va faire que effectivement, eh ben ouais, quand on a les mains serrées, un oiseau, ça devient un symbole de la liberté. Eh ben ouais, eh ben j'ai parlé des petits oiseaux qui s'envolent depuis entre les barreaux.
Je me souviens, à Bagdad, à certaines époques, on a joué en entendant Godot.
Ben oui.
Il y a la dictature, hein. Et du coup, la seule chose qu'ils ont trouvé, les gars, les acteurs ou les poètes, ils jouaient en attendant Godot. Et ceux qui connaissent la pièce, Godot, face à la dictature, c'est qui? C'est Che Guevara, le révolutionnaire. C'est là où la poésie, où les poètes sont très très forts. C'est-à-dire, ils ont une puissance imaginaire, parce que quand ils s'engagent, ils sont très très forts. Quand ils sont universels, envers l'autre. Universel dans le regard de celui qui est là-bas, qu'on ne connaît pas. C'est là où ça devient réellement important.
Alors, ce que vous avez dit à propos de l'autre tout à l'heure, que je partage totalement, moi j'aurais une question à vous poser. Est-ce que ça remet en cause, finalement, toute cette immense page de la poésie qu'on appelait la poésie lyrique, où le poète parlait surtout de lui, de ses sentiments, de temps en temps de l'autre, mais surtout de lui?
Je réponds, non? Non,
moi je suis pas convaincu que qui dit lyrique dit nombrilisme et narcissisation. On peut servir la lumière, la beauté, ce qui passe entre nos mains, avec un certain lyrisme, avec, comme disait l'offrande lyrique Tagore, avec un sentiment d'offrande lyrique. C'est pas pour ça que c'est une poésie qui est prioritairement personnelle. Quand on sert, on donne, on offre à l'autre, au lecteur, à celui qui habite à la fois la terre et les éthers. Voilà, moi je ne suis pas convaincu de ça.
Ouais, pour ne pas vous répondre, mais prolonger, je pense que la poésie lyrique, le lyrisme, il est incantatoire. Il incante, il est un chant. Quand on dit qu'il est un chant, est-ce que la poésie lyrique où le poète parle de ses sentiments, il ne parle pas, il ne chante pas ses sentiments, il chante les sentiments, dont lui peut être un terme qui n'existe pas, c'est portrait, lui, pas très joli en plus, donc il n'est pas le traverseur, donc il est le passeur. À la fois, il passe par ses sentiments, et en même temps, il est celui qui va transmettre, non pas son sentiment, non pas ce qu'a produit le passage du sentiment à lui, mais il va transmettre le passage. C'est-à-dire, c'est comme le relais. Je te passe la main, oh, copain, c'était très fort ce que j'ai vécu. Tu sais, tu peux vivre quelque chose de très fort. Allez, vas-y, dis de très fort ce que tu... Voilà. Mais il dit pas, c'est pas le nombriliste. Alors, tu sais, j'ai vécu quelque chose de très fort, j'ai eu les tripes, quand on dit, mon cœur a battu à 300 à l'heure, j'ai perdu mon eau, j'ai tout, enfin, non, c'est pas une description, vous voulez, de la transformation de l'expérience sensible. De l'expérience sensible, c'est pas la description de cette transformation, c'est la transmission. Il y a quelque chose à travers ce qui est vécu qui transforme. Copain, je te le dis, il y a de la transformation par là. Allez, vas-y. C'est ça, pour moi, en tout cas.
Le muscle du poète, c'est quand même la mémoire collective très ancienne.
Cette mémoire, c'est le fruit de la transmission. Cette transmission.
Signer des livres. Donc, je suis désolée aujourd'hui, mais j'espère vous dire merci. Merci, en tout cas, pour cette très belle
Comment vous
Si y a personne, on ira boire un verre, on va essayer de trouver un café, il y en a un vers le métro, on va essayer de changer un
peu. Mais c'est définitif, les donuts, c'est définitif.
Si tu payes en liquide, il y a l'enveloppe.
D'accord.
Si tu fais un chèque, c'est les éditions ici.
D'accord, mais je vais payer en liquide. J'ai pas pris mon chèque.
Alors, tu attends le bon moment parce que je sais pas si
c'est Daniel.
Daniel, deux ailes. J'ai la pointe, très de la charge.
Très bien, merci.
Vous supervisez la grande ambiguïté.
Tiens.
C'est pour moi. C'est pour moi.
Je peux vous demander votre nom, votre prénom.
Il était là.
Pardon. Michel.
Ah. Il faudrait que j'arrête mon envoyé. Merci. Excusez-moi, je suis pas. Tiens.